C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Lou Reed, 1942-2013. Auteur, compositeur, interprète, américain, bisexuel. Œuvre, Walk on the Wild Side, chanson, 1972, dans l'album Transformer. Personnage, Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy, Jackie.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way. Shaved her legs and then he was a she that said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey.
Ce que nous entendons est le début d'une des chansons les plus célèbres du XXe siècle. Je dirais assez que les non-anglophones en retiennent trois choses. Son interprète, Doudou, et le titre. Que veut dire pour eux « Walk on the Wild Side » ? Ils n'en ont peut-être pas beaucoup d'idées. Version américaine des vers de Charles Trenet dans « L'âme des poètes », parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait « la 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 ».« Take a walk on the wild side », cela signifie « faire un tour du côté sauvage ou déchaîné ». Ce côté déchaîné, c'est celui du travestissement, de la prostitution, des drogues. Rien de rare dans tout cela, dira-t-on. Il n'avait pas manqué de chansons dites réalistes pour nous le raconter. Et par exemple, à la dérive, interprétée par Georgette Carlor en 1929, la Coco par Fréhel en 1931, les filles ont une âme par Germaine Lix en 1933. Seulement, c'était sinistre. On chantait pour que ça dégouline de malheur. Tenez, les filles ont une âme. Je rappelle que les filles, à cette époque-là, cela voulait dire les prostituées. Et donc, traînons leur corps usé dans les rues des faubourgs, hautaines l'œil rusé, vont les filles d'amour, gardant leurs secrets, leurs pauvres secrets de femmes, et parfois des reflets éclairent leur blanc visage qui efface tous les ravages. Mais alors vient la nuit, alors elles partent légères, oubliant toutes les misères, avec un grand regard qui lui, mais un matin discret, vivement la mort emporte vers le néant, sans plus d'escorte, ses épaves à jamais. Avec la religiosité américaine doublée de l'optimisme obligatoire de la culture populaire de ce pays, il était impossible de parler de ces choses dans ses chansons, même pour en montrer la part sordide. Comme toujours, il avait fallu l'Europe et ce que les prêcheurs évangéliques américains appellent sa décadence pour montrer simplement ce qui est. D'ailleurs, c'est un Européen qui a produit le disque de Lou Reed, David Bowie, l'année même où il sortait son disque Ziggy Stardust, auquel j'ai consacré un personnage en personne. Ce que Walk on the Wild Side a réalisé d'extraordinaire, et pour l'Amérique, mais aussi pour l'Europe, c'est que, avec ses personnages, Lou Reed a inventé de montrer des comportements réprouvés de leur point de vue même, et donc avec bienveillance. Il a inventé ce que j'appellerais le trash chic, qui sont Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy et Jackie. Pour en parler, je reçois Jean-Marie Potier, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la musique, le plus récent étant Smile, la symphonie inachevée des Beach Boys, aux éditions Le Mot qui reste. Jean-Marie Potier, puisqu'il y a cinq personnages, je voudrais que nous les prenions l'un après l'autre, non sans avoir dit que la chanson se compose de cinq strophes, chacune sur un personnage, et que chacune décrit une très brève aventure ou leur comportement principal, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Alors, c'est une chanson relativement allusive où les choses sont plutôt suggérées que dites.
Oui, et d'ailleurs, ça a été au cœur du scandale, du parfum de scandale qui a entouré ce morceau, parce que les censeurs ont pu être piégés par le vocabulaire utilisé par Lou Reed dans la chanson. Notamment une des strophes les plus célèbres où on indique qu'un personnage passe son temps à « giving head », ce qui en fait signifie « prodiguer une fellation ». Et la censure anglaise a totalement été piégée par ce morceau, puisque même la BBC à l'époque l'a diffusé, ce qui a largement aidé à le populariser.
Sans s'en rendre compte.
Enfin, le DJ qui l'a passé s'en était très bien rendu compte, lui. Par contre, les producteurs au-dessus de lui et les directeurs d'antenne, pas du tout.
Alors, dans la chanson, il y a d'abord Holly. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Holly ? Qu'est-ce que raconte la strophe sur Holly ?
Les paroles donc disent « Holly came from Miami, FLA ». Donc Holly est venue de Miami en Floride. Et elle s'est baladée à travers les États-Unis en faisant de l'autostop pour gagner New York. Et on nous dit qu'en chemin, elle s'est épilée les sourcils et elle s'est rasée les jambes. Et là, il y a cette phrase merveilleuse et qui résume bien la logique du morceau, c'est-à-dire de gens qui se transforment pour on va dire, atteindre leur véritable moi, ce qu'ils considèrent comme leur véritable identité, puisque Lou Reed nous dit « Ollie shaved her legs and then he was a she ». Donc Ollie s'est rasé les jambes et soudain, il est devenu elle.
Ces personnages, nous l'avons dit, sont tirés de personne, et Holly, je crois qu'elle est tout ou partie Holly Woodlawn.
Tout à fait.
Et alors qui est-ce Holly?
Alors donc Holly Woodlawn, donc son nom de naissance, c'est Haroldo Santiago Franceschi Rodriguez Danacle.
Tout ça.
Très long. qui est né à Puerto Rico avant de gagner Miami avec sa famille.
Donc c'est un garçon.
C'est un garçon. Qui fait partie, comme d'ailleurs la plupart des personnages de cette chanson, de la génération de l'après-guerre, puisque la plupart ont 25 ans en 1972 environ. Et à l'adolescence, ses parents ont découvert qu'il était gay, donc Haroldo, et qu'il traînait avec le milieu gay de Miami Beach. On voulait l'envoyer en camp d'été pour le punir, et c'est là que, incité par des amis, Haroldo a décidé de rejoindre New York en autostop et de devenir Ollie. Ollie a choisi ce nom en référence à Ollie Golightly, donc le personnage de la nouvelle de Truman Capote. Du roman de Truman Capote, Diamant sur canapé, qui est joué par Audrey Hepburn au cinéma.
Et je crois d'ailleurs qu'il ou elle, quand il s'est transformé, a rencontré un autre des personnages de la chanson qui est Jackie Curtis. On va y revenir. Alors, après, il y a peut-être le personnage qui est tiré de la personne la plus célèbre de toutes, qui est Candy.
Candy Darling.
Qu'est-ce qui se passe dans la chanson?
Dans la chanson. Candy came out on the island. Donc, Candy venait de Long Island. Et là, Lou Reed nous dit « In the backroom, she was everybody's darling ». Donc, elle était la chérie de tous dans le backroom. Donc, le backroom, en l'occurrence, de Max Kansas City ou de la Factory. Donc, étaient les deux clubs ou studios où traînait, on va dire, la faune qui entourait à l'époque Andy Warhol. Et donc, cette célèbre phrase dont nous parlons tout à l'heure, « She never lost a head, even when she was giving head ». Ou voilà,
elle ne perdait pas la tête même quand elle faisait des fellations, mais le jeu de mots est un peu perdu en français.
Exactement, voilà. Et Candy, donc nous disions, est originaire de Long Island et un jour, au tournant des années 60, sa mère a appris par un voisin qu'on l'avait vu, donc Candy, mais qui à l'époque ne s'appelle pas Candy, qui s'appelle James Lawrence Slattery, qu'on l'avait vu traîner dans le quartier habillé en femme. Et sa mère lui a demandé si c'était vrai. Et là, James quitte la pièce et revient quelques minutes plus tard habillé en femme. Voilà. Donc il fait son coming out, on va dire transgenre, devant sa mère à cette époque-là. Et après, elle a gagné New York, pardon, et a pris le nom de Candy Darling en référence notamment à son amour des sucreries et au fait que beaucoup de gens l'appelaient Darling.
Et d'ailleurs, c'était une des muses du Velvet. Je crois qu'on la voit dans au moins deux films de Warhol, n'est-ce pas?
Il y a effectivement deux films de Warhol qui sont d'abord Flesh, en 1968, et en 1971, Women in Revolt, qui était un film satirique, donc produit par Warhol, de Paul Morrissey, donc qui satirise le mouvement de libération des femmes. Et c'est aussi une des égéries du Velvet Underground, puisque dès 1969, il y avait un magnifique morceau du groupe qui s'appelait Candy Says.
Elle aussi, d'ailleurs, finalement, le moyeu de la roue, ça doit être cette Jackie Curtis dont on va parler, parce qu'elle aussi a joué dans une pièce de Jackie Curtis. Et je voudrais recommander, pour ceux qui ne connaissent pas Candy Darling, une photo d'elle, de Peter Udjar, qui était un photographe pas très connu américain, d'elle sur son lit d'hôpital, car elle est morte très jeune, je crois, à 29 ou 30 ans. Et cette photo est très touchante, car même sur son lit d'hôpital, elle était habillée en diva, et il n'était pas question pour une fille pareille d'être en pyjama à l'hôpital. Après, le personnage suivant, c'est Little Joe. Alors, que nous raconte la chanson sur Little Joe?
Donc, Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here, and a hustle there. Donc là, ce que nous décrit Lou Reed, c'est que Little Joe est un prostitué. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toutes les autres strophes de la chanson décrivent la personne réelle dans la vraie vie. Et là, et Joe D'Alessandro l'a largement précisé par la suite, ce n'est pas lui, c'est le personnage qu'il joue dans plusieurs des films produits par Andy Warhol, puisque Joe D'Alessandro est véritablement l'égérie des productions Warhol. C'est vraiment la star de ces films. Et que dans plusieurs des productions en question, notamment Flesh et Hit, il joue un prostitué. Et donc, il a effectivement après précisé, il a notamment dit « Ce n'est pas la vérité, Lou a pris mon personnage dans Flèche et a écrit dessus dans sa chanson ».
Est-ce que je me trompe? Mais je crois qu'en 78, Lou Reed, qui n'était pas la gentillesse même, s'est moqué d'Alessandro en le montrant plus ou moins comme un imbécile dans une version de Walk on the White Side sur un live où la chanson avec, dure plus d'un quart d'heure avec des monologues et le disque s'appelle Take No Prisoners.
Ouais, le titre est très bien choisi, donc c'est Pas de quartier. Et effectivement, la chanson dure, je crois, 18 minutes parce que à chaque fois, Lou Reed se lance dans le couplet puis s'arrête pour partir dans un long monologue. Et il a cette phrase très méchante sur D'Alessandro où il dit « Il a un QI de 12, c'est la seule personne, le seul acteur que je connaisse qui soit parti en Italie pour chercher la fortune et ça n'a même pas marché. »
Le quatrième personnage et l'avant-dernier de The Walk on the Wild Side, c'est Sugar Plum Fairy.
Alors Sugar Plum Fairy, donc Lou Reed nous dit « Came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat ». Donc il est venu et il a gagné la rue en cherchant de la nourriture soul et un endroit où manger. Alors ce Sugar Plum Fairy, c'est le personnage le plus mystérieux ou peut-être le plus méconnu de la chanson. Parce que, en fait, il fait pas totalement partie du premier cercle de l'entourage de Warhol ou de la Factory, contrairement aux autres personnages de la chanson. Alors lui, en fait, l'intérêt de Lou Reed pour lui vient d'un film qui s'appelle My Hustler, qui est sorti en 1965, où il joue un prostitué qui se lance dans un exercice de séduction dans une salle de bain avec un jeune effet blond qu'il convoite.
Et je crois que son surnom veut dire quelque chose, Sugar Plum.
Alors Sugar Plum Fairy, ça désigne quelqu'un qui prend tellement de drogue qu'il se met à les partager généreusement avec ses camarades de fête.
Et je crois que le personnage de Sugar Plum Fairy est tiré de Joe Campbell, qui a eu une importance politique indirecte, car Joe Campbell a eu un compagnon qui, comme Holly, s'est exilé, mais lui de New York à San Francisco, et ce compagnon n'était personne moins que Harvey Milk, le premier élu politique ouvertement gay de l'histoire des États-Unis, qui a été assassiné en 1978. Et le cinquième personnage de la chanson, c'est Jackie.
Alors Jackie Curtis. Donc Jackie, she's just speeding away, thought she was James Dean for a day. Donc speeding away, là encore, on est sur des paroles qu'il faut effectivement interpréter. Speeding, en l'occurrence, c'est pas parce qu'il est en train de prendre de la vitesse, c'est parce qu'il prend du speed, donc il prend des amphétamines. Mm-hmm. Et après, Lou Reed nous dit « I guess that she had to crash, Valium would have helped that dash ». Et là, crash, pareil, ce n'est pas non plus avoir un accident, c'est être en descente. Et pour être en descente, qu'est-ce qu'on fait ? On prend du Valium.
Il y a une ironie prémonitoire, c'est que Jackie Curtis, d'où le personnage tiré, est morte dans un crash, dans un accident de voiture en 1985. Et on l'a dit, elle avait un lien avec d'autres personnages, c'est que c'était une performeuse, elle performait en drag queen, je crois, et elle a écrit, elle passe pour une des inventrices du glam rock, est-ce que c'est vrai ?
Oui, notamment parce que elle avait un style, on va dire, vestimentaire et au-delà, qui était assez différent des deux autres personnages transgenres de la chanson, donc Hollywood Lawn et Candy Darling, qui est vraiment jouait au maximum la féminité. Elle avait un style plus mélangé. Alors notamment, il y a un film d'Andy Warhol qui est de Paul Morrissey qui s'appelle Trash, où elle apparaît le cheveu court, sans rouge à lèvres, et où on voit encore, notamment sur sa peau, contrairement à Candy Darling qui lui fait face, qui a beaucoup de fond de teint, où on voit encore sur sa peau les traces de barbe et de moustache bien visibles. Mais en même temps, en portant des collants. Donc ce style, voilà, c'est assez effectivement de glam trash qui annonce le genre musical.
Alors, Walk on the Wild Side pourrait aussi porter le titre de manège enfanté de la Factory, parce que tous ces gens-là qui tournent sur le manège de la chanson de Lou Reed ont fréquenté la Factory. Alors expliquez-moi un peu ce que c'est, si par hasard quelqu'un ne savait pas.
Alors la Factory, donc, c'est le studio que Warhol a créé à New York en 1964. Alors je dis studio, mais en fait il faudrait sans doute employer 5 ou 6 mots différents. Donc il y a studio, il y a studio d'enregistrement, il y a studio photo surtout, plateau de tournage, boîte de nuit, club, bar. Et donc c'est un endroit où finalement on peut passer toute sa journée et même ses nuits, et que fréquente donc Warhol et tout son entourage, c'est-à-dire la plupart des personnes qu'on vient de citer, et aussi Lou Reed, la chanteuse Nico, d'autres acteurs, et aussi des célébrités extérieures qui viennent attirer, on va dire, par le glamour de l'endroit.
Je dois dire que cette chanson, qui est évidemment une chanson extraordinaire, est aussi d'une indiscrétion extraordinaire. Parce que de quel droit Lou Reed dit-il que tel ou tel se came, que tel ou tel autre fait des fellations, enfin, à moins qu'il ne se protège l'idée de personnage, mais je crois qu'il a même pas essayé.
Non, et c'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas des personnes qu'il connaissait dans la vraie vie intimement. Il est pas allé les voir en leur demandant la permission de faire une chanson sur eux. Et après coup, il avait dit, j'étais persuadé que ces gens-là allaient m'arracher les yeux. Et notamment, il était rassuré quand Candy Darling lui a dit en blaguant qu'elle aimait beaucoup ses disques et qu'elle voudrait faire un album de reprise de ses chansons.
Pour parler de certains comportements dits déviants, c'était nouveau dans la chanson, je l'ai dit. Cela avait commencé plus tôt, une vingtaine d'années avant, avec la littérature. Il y a les poèmes d'Allen Ginsberg, certains romans de Burroughs. Et puis peut-être surtout pour Lou Reed, il y avait eu le roman de John Rechy, Les Cités de la Nuit, qui avait paru en 63. Et qui était un roman qui, pour la première fois, montrait justement des types qui... Enfin, le personnage principal, Thierry de Rechy lui-même, qui faisait des passes.
Ouais, Lou Reed, de toute façon, a un fond littéraire très très important dans toute son œuvre et intéressé par ça. Et d'ailleurs, la chanson dont on parle, Walk on the White Side, est indirectement le produit d'un livre, puisque, en fait, à la base, on a demandé à Lou Reed d'adapter en comédie musicale un roman de Nelson Algren, A Walk on the White Side, et le projet est tombé à l'eau, et là, il a repris... C'est-à-dire le squelette de sa chanson, et il a injecté là-dedans des personnages de la Factory.
Alors, une chanson du temps des albums, et cette chanson-ci, je l'ai dit, est sur l'album Transformer, n'était pas seul, car les albums, c'était une sorte de composition florale, et certaines chansons éclairaient les autres. Et bien, dans Transformer, à côté de Walk on the White Side, il y a Make Up, et dans Make Up, il y a les paroles suivantes. Now we're coming out, out of our closets, out on the streets, yeah, we're coming out. Maintenant, nous sortons de nos placards dans la rue. Oui, nous sortons.
Alors, c'est doublement intéressant parce que c'est effectivement le cas des personnages de cette chanson. Et par exemple, Hollywood Lawn était présente en 1969 au moment des émeutes de Stonewall. Donc, quand ce bar apprécié la communauté gay de Greenwich Village a été l'objet d'un raid de la police et qui a été l'événement qui a été notamment le déclencheur de la première Gay Pride. Donc, il y a ce côté « We're coming out ». Mais que, par ailleurs, Lou Reed était considéré comme très ambigu sur sa sexualité. Car il jouait de ce côté bisexuel, mais sans le revendiquer totalement, au point que un célèbre critique américain de rock, Lester Banks, avait un jour dit qu'il était une reine du placard.
D'ailleurs, une chose que nous avons peut-être oubliée maintenant, c'est que, étant rocker, puisqu'on peut, je pense, le qualifier de rocker, Lou Reed devait être assez mal à l'aise, parce qu'il y a peu de milieux plus macho hétérosexuels que le rock, non ?
Il y a toujours eu, en tout cas, dans le rock, effectivement, ce cliché comme vous le dites, du machisme, du vrai mal et tout ça. Tout cela. Et c'est d'ailleurs une des contributions et de Lou Reed et de David Bowie qui coproduit la chanson et du courant glam rock en général d'avoir introduit une nouvelle version, on va dire, de la masculinité dans le rock.
Un album, c'était aussi sa pochette et le verso de Transformer n'est pas ambigu avec sa photo de petite frappe au jean moulant qui laisse bien saillir ses avantages.
Exactement. Et d'ailleurs, comme vous parlez de jean moulant, c'est sans doute le jean le plus connu du monde, celui que nous avons tous vu. C'est celui de Joe D'Alessandro qui figure sur la pochette d'un album des Rolling Stones, Sticky Fingers, voilà, qui est dessiné par Andy Warhol, bien sûr, qui était une pochette connue parce que le zip du jean était dans la première version réelle. Et sur le coup, ça n'a pas été dit, mais voilà, D'Alessandro, quelques années après, a dit c'est moi cette photo, on voit juste mon entrejambe, mais c'est le mien.
Nous allons entendre la suite de la chanson Walk on the White Side de Lou Reed, qui date donc de 1972.
Jackie, she is just speeding away. She thought she was James Dean for a day. But then you know that she had to crash. Valium would have helped that best. She said, hey Jackie, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, do 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 do.
Jean-Marie Potier, on répète souvent après Oscar Wilde que la vie imite l'art. Eh bien, je voudrais faire la proposition suivante. Les auteurs imitent parfois leurs personnages. Car il faut dire que dans sa jeunesse, Lou Reed a été un bon garçon, jusqu'au moment où il a tout abandonné pour la chanson. Je m'apprête d'ajouter que la chanson, c'est du travail et c'est tout à fait sérieux, mais il s'est lâché sur autre chose, sa vie dite privée, pour laquelle on l'avait fait beaucoup souffrir.
Effectivement, puisqu'on lui a prodigué à l'adolescence des électrochocs, et un événement traumatique auquel il a consacré... Pardon, oui, on lui a prodigué des électrochocs parce que ses parents suspectaient des tendances homosexuelles chez lui. Voilà, ce qui à l'époque était vu comme une malédiction pour certaines familles en tout cas.
Et lui venait d'une famille plutôt conservatrice, voilà. Juive de Long Island.
Exactement. Hein. Et donc, on lui a prodigué des électrochocs. Et alors, ça a été un événement tellement traumatique qu'il y a consacré plus tard dans sa carrière, au milieu des années 70, une chanson qui porte ce titre absolument terrible, qui est Kill Your Sons. Voilà, tuez vos fils.
Et d'ailleurs, je voudrais dire que cette chanson Kill Your Sons me rappelle deux vers du poète anglais Philip Larkin qui sont merveilleux, qui disent They fuck you up, your mom and dad. Ils te foutent en l'air, maman et papa. Et c'est un peu la même chose, et si souvent vrai. Donc il a subi pas moins de 24 séances d'électrochocs, c'est tout de même pas rien. Et après ça, on l'a assommé de drogue pour compléter le traitement, et je crois que d'ailleurs ça lui avait beaucoup abîmé la mémoire.
Oui, tout à fait, oui.
Il a eu Lou Reed cette belle réponse triste à une interview au sujet de son enfance, je le cite. « Je le regrette, c'était un très grand problème. À partir de l'âge de 12 ans, j'aurais pu bien m'amuser sans même penser à tout ça. Ça a été une sacrée perte de temps. » Quand l'amour est interdit, tu passes le plus clair de ton temps à jouer avec la haine. Personne n'a besoin de ça. J'ai eu l'impression de me faire avoir.
Oui, c'est une très belle phrase. Et par ailleurs, enfin, dans la tristesse de cette phrase, je trouve définit bien quelque chose qui est partagé par les personnages de cette chanson, qui ont tous eu des enfances compliquées, tous nés dans des familles compliquées. Par exemple, Joe D'Alessandro a été placé en famille d'adoption. Il a été ensuite incarcéré dans un centre de correction pour mineurs. Après avoir commis des petits larcins, il s'est enfui. D'autres étaient fils de pères alcooliques. Enfin, beaucoup ont une famille compliquée. Et une famille compliquée, plus identité compliquée, qui les a incités voilà, à se tourner justement vers une autre identité.
D'ailleurs, Lou Reed s'est bien gardé d'avoir des enfants.
Oui, alors pourtant il a été marié, je crois, à trois reprises, y compris notamment son dernier mariage avec la musicienne américaine Laurie Anderson. Mais effectivement, il n'a pas eu d'enfant.
Là où il s'est rapproché de sa chanson et de ses personnages, c'est que vous citez de ces trois mariages, mais il a aussi vécu plusieurs années avec une femme trans, Rachel. Loin de moi l'idée que trans ce soit trash, mais ça n'est pas la norme. Et Rachel, à qui est dédié l'album Coney Island Baby en 1975 et sur la couverture d'une compilation de 1977 qui ne porte pas d'autre nom que Walk on the White Side, The Best of Lou Reed.
Oui, alors on en revient effectivement à l'attitude de Lou Reed face à sa bisexualité. C'est que, comme vous le dites, il a vécu avec une transgenre, avec Rachel, mais que ça n'a pas non plus été revendiqué haut et fort, au point que certains l'accusaient finalement d'être un peu un observateur du milieu gay et de l'utiliser à son profit. Voilà, il y a eu cette accusation-là d'exploitation un peu du milieu homosexuel par Lou Reed.
Le producteur du disque, David Bowie, a été caractérisé par l'expression glam rock. Est-ce que vous pensez qu'on peut employer cette expression de glam rock à propos de Transformers, de Walk on the White Side et de Lou Reed en général?
Bien sûr, c'est tout à fait approprié à cet album-là, Lou Reed, aussi au suivant qui s'appelle Berlin, qui est un chef-d'œuvre, un disque absolument magnifique. Et alors, c'est toujours hasardeux de se lancer dans une définition d'un genre musical, mais le glam rock, il y a ce côté, on va plonger dans les coins en apparence les plus glauques ou les plus sales de la société, mais on va le faire en même temps avec une couche de paillettes là-dessus, hein, une couche de vernis, de glamour, justement, glam rock, qui rend ça attirant aux yeux du grand public.
Oui, vous avez raison, la caractéristique d'une chanson comme de toute œuvre d'art, sans doute, c'est sa manière plus que son sujet, ou plus exactement la manière qu'emploie l'auteur de traiter son sujet. Il me semble, et dites-moi si vous êtes d'accord, que Walk on the White Side, il y a une forme, de la part de Lou Reed, de nonchalance hautaine.
Alors, je pense que nonchalance hautaine, d'ailleurs, pourrait définir énormément de chansons de son œuvre, c'est une de ses caractéristiques. Et d'ailleurs, la chanson peut être interprétée de manière assez différente. On peut dire qu'il est cruel envers ses personnages en citant leur, je vais mettre des guillemets, vice. Mais quelqu'un comme Patti Smith, par exemple, a dit que c'était magnifique ce qu'il faisait parce qu'il proclamait en quelque sorte ses personnalités sans être sirupeux.
Oui, mais c'est très bien d'exprimer la personnalité des autres, mais quand on cache la sienne, c'est moins bien.
Oui, alors après.
Moi, je suis tout à fait pour les outings des gens qui se cachent.
Bon, en même temps, en l'occurrence, les gens en question étaient les personnes.
Enfin, pardon, des gens qui se cachent en attaquant les autres.
Oui, je pense que c'était quand même vu pour lui plus comme une manière d'hommage, à mon avis.
Vous croyez ?
Je pense, oui. C'était ce qu'on a dit tout à l'heure, quand il attaque publiquement Joe D'Alessandro, ça, c'est, je pense, c'est une époque où il va pas très bien et où il se montre cruel, mais c'est pas ce qu'il voulait dire dans la chanson.
Mais même la chanson est un peu persifleuse quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, je vais employer un très grand mot pour France Culture, que c'est une chanson de salope ?
ce serait pas tout à fait faux. Effectivement, il y a un côté persifleur, mais je pense par ailleurs que ce côté persifleur était partagé par certains des personnages, ou en tout cas c'était une caractéristique du milieu. Je veux dire, Warhol, c'était pas quelqu'un de particulièrement gentil, il traitait pas bien ses gens, ses proches. Par exemple, tous ses
proches. Oui, mais pardon, mais ça n'était jamais exprimé. Warhol était très neutre dans ses œuvres. Il n'y avait pas de sarcasme ou de vacherie ostensible dans ses œuvres.
Dans ses œuvres, non, effectivement. Par contre, dans sa vie, il y a notamment une anecdote concernant des personnages de la chanson qui est qu'un jour, Francis Ford Coppola appelle Joe D'Alessandro, enfin, en tout cas à la Factory, je pense, pour lui proposer de passer des essais pour Le Parrain. Et là, Warhol lui répond qu'en gros, Joe D'Alessandro est un défoncé de première. Et bon, finalement, ça ne se fera jamais, son apparition dans le film. Alors que ça peut modifier une carrière.
Oui, en fait, le vrai coming out de Lou Reed a eu lieu non pas sexuellement ni dans cette chanson, mais il me semble dans une chanson qu'il a chantée en concert et en public avec son producteur David Bowie quelques années plus tard, qui est Queen Beach.
Oui, qui est une des plus belles chansons de l'album Hunky Dory de Bowie, et qui d'ailleurs on rejoint encore effectivement les relations complexes entre la vie et l'art, puisque ces deux-là chantent la chanson ensemble et il y a toujours eu une part de mystère concernant leur relation dans la vraie vie, dans quelle mesure ils étaient passés à l'acte ensemble, voilà.
Et
on peut penser que oui, mais il y a toujours en tout cas cette part d'un peu d'ombre, en tout cas de mystère, effectivement, d'opacité.
D'ailleurs, le talent de l'un et l'autre a été, comme de Bowie comme de Lou Reed, a été de jouer perpétuellement sur l'ambiguïté et de ne jamais exprimer les choses, et de laisser, et pour leur vie et pour leurs œuvres, une part d'ombre et d'ambiguïté qui a fait que ça attirait perpétuellement les gens qui voulaient savoir.
Oui, bah c'est la part de mystère. On parlait tout à l'heure de l'aspect macho du rock, mais souvent l'aspect macho du rock, c'est quelque chose de très revendiqué, très premier degré, très frontal. C'est pas très intéressant, il n'y a pas de mystère derrière tout ça. Alors que justement, ce qui fascine les gens, c'est d'aller chercher ces paroles codées dans les chansons, d'aller les décrypter, les analyser.
Je me demande si une descendance indirecte, un cousinage, disons, d'une œuvre d'art avec Walk on the Wild Side n'est pas le film de Rocky Horror Picture Show qui est de 3 ans après, de 75, et qui se moque des conventions bourgeoises à l'aide de travestis sarcastiques.
C'est sûrement vrai, et il y a toute une part un certain nombre de films de cette époque qui, je pense, sont des films glam dans leur style. Donc, vous mentionnez Rocky Horror Picture Show, à peu près la même année ou l'année précédente, il y a Phantom of Paradise de Brian De Palma, qui est purement un film glam rock, vraiment, où les personnages se réinventent physiquement, changent de style comme de chemise. Donc il y a toute une vague de films qui a été influencée par ce genre-là.
Jean-Marie Potier, que vous ont appris les personnages de Holly, Candy, Little Joe, Sugar Plum Fairy et Jackie?
Alors, je dirais qu'ils m'ont appris le pouvoir subversif et libérateur à la fois de la musique. Alors, subversif parce que la chanson, on parle de gens qui sont considérés par la majorité de la société comme des déviants, des inadaptés. Voilà. Et pourtant, on fait une chanson sur eux, et non seulement on fait une chanson sur eux, mais elle grimpe au hit parade au point que tout le monde l'entend et que on a beaucoup dit ça à l'époque, les camionneurs des États-Unis l'écoutaient tous. Ah, ils tournaient tous leur radio pour écouter Walk on the Wild Side. Et ce qui provoque cette subversion, un effet libérateur, puisque ça, on va dire, légitimise, c'est peut-être un mot un peu fort, voilà, mais ça réintègre toutes ces personnes dans la société. En étant part de quelque chose. Et ce qui est vrai pour ces personnes-là qui se sont réalisées à travers l'art, et l'art et la vie, parce que chez eux tout était très, très mélangé, et ce qui est vrai de Lou Reed, en fait, qui a sauvé sa propre vie grâce à la musique. Et il a une phrase merveilleuse dans une de ses plus belles chansons avec le Velvet Underground qui s'appelle Rock'n'Roll, où il parle d'une petite fille qui s'ennuie et qui un jour allume la radio. Et là, il dit Her life was saved by rock'n'roll. Et à mon avis, c'est vrai pour ces 5 personnages dont la vie a été sauvée par leur art, par les gens qu'ils ont croisés, les artistes qu'ils ont rencontrés. Et c'est vrai de Lou Reed, dont la vie a été sauvée par le rock'n'roll.
C'était Personnage en Personne, le 74e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage du torero mort créé par Édouard Manet. Réalisation Clotilde Puvin, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Delphine Baudet. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.